Le grand témoin. Bonjour et bon dimanche chez vous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver tous les dimanches pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Et dans ce studio avec moi, Joseph Bangakia Ongaz. Il est homme politique congolais et vice-gouverneur honoraire. Il a été vice-gouverneur de l'ex-province orientale qui n'existe plus, qui a été démembré en 4 nouvelles provinces. Joseph Bangakia, merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie pour votre aimable invitation.
Alors avec vous, de notre entretien, nous allons vous présenter auprès des auditeurs de Radio Capi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radioocapi.net. Vous allez nous parler de votre expérience politique, qu'est-ce qui vous a attiré en politique, mais nous allons parler aussi d'actualité avec le découpage territorial qui s'accélère, hein. 4 provinces déjà ont été démembrées, on va en parler tout à l'heure. Mais avant cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né un certain 19 février.
Effectivement, à Kinshasa, à la clinique Ngaliema.
Et c'est à Kinshasa où vous avez passé votre enfance ?
Oui et non, j'ai beaucoup voyagé après être né à Ngaliema, à Kinshasa. Fils de mon père, bien entendu, le professeur Bangakia Manzoune, qui a été le premier généticien de la RDC et le premier professeur de ma nouvelle province, le Haut-Uele, et de ma mère, qui elle est en vie car mon père est décédé, Lia Clotilde. Nous sommes partis en France, à Poitiers, car mon père était bénéficiaire d'une bourse de doctorat. Et nous avons fait 5 ans à Poitiers et nous sommes revenus après à Kinshasa.
5 ans à Poitiers, vous êtes revenu à Kinshasa. Je comprends que vous avez grandi dans des bonnes conditions avec un papa professeur.
Plutôt oui. Lorsque nous sommes revenus, j'étais élève au groupe scolaire du Mwamba, qui à l'époque était, et j'espère jusqu'à maintenant, une des toutes meilleures écoles de la ville. Les professeurs à l'époque, oui, ils avaient plutôt un niveau de vie intéressant. Et je me félicite de voir que petit à petit, ça redevient de nouveau le cas. Et surtout, à notre époque, les enfants des professeurs d'université étaient des modèles dans la société. On était bien éduqués, bien formés, on parlait bien français. Les choses ont vraiment changé. Les repères moraux, il faut qu'on les retrouve dans notre société.
Vous aviez quel âge lorsque vous êtes allé en France ?
3 ans. Plutôt 2 ans. 2 ans, c'est pour la première fois, car j'y suis allé après plusieurs fois. Donc là, je suis parti à 2 ans. J'avais l'âge de 2 ans.
À 7 ans, vous êtes revenu ?
Oui.
Lorsque vous êtes rentré au pays, l'adaptation était facile ?
Non, pas du tout, parce que on était des mikilistes, comme on le disait à l'époque, et on parlait un français
différent,
châtié, que certains appellent rouge Bordeaux. Et donc, dans le quartier, là, nous étions à Lemba. Et surtout, nous habitions avec des cousins qui, eux aussi, étaient revenus de Bordeaux. Et nous étions entre nous, alors que les amis du quartier voulaient que nous jouions avec eux. Donc c'est une période que j'aime me remémorer, effectivement. C'est toujours bien.
Cette période-là.
Plus on se projette dans le passé, plus on sourit. C'est le propre de l'homme d'être nostalgique.
Et quel est le souvenir que vous avez le plus marqué pendant que vous grandissiez, pendant votre enfance ? Je sais qu'il y a beaucoup de souvenirs qui vous reviennent en tête. Oui. Mais est-ce qu'il y a un seul que vous avez le plus marqué ?
Oui, en parlant de mes cousins, parce que nous sommes arrivés quelques mois avant eux, je m'étais déjà fait des amis, des copains. Mais lorsqu'ils sont venus, on s'est retrouvés entre nous. Alors les amis du quartier étaient très mécontents. Ils ont alors décrété un blocus contre eux. Donc, s'ils pointaient leur nez dehors, ils avaient affaire aux amis du quartier. Et effectivement,
c'était des bagarres entre vous.
Entre eux, moi.
Entre les liquilistes et
oui.
Les quinois.
Mais pas moi, parce que je vous ai honoré, mais de toute ma vie, je ne me suis jamais battu. J'ai pratiqué les arts martiaux, mais je n'ai jamais eu à me battre de toute ma vie. Même lorsque j'étais tout petit.
Vous étiez quel genre d'enfant ? Timide ?
Pas timide. J'étais toujours premier de classe, souvent capitaine de classe, major de classe. Toujours, c'est vrai, dans le groupe auquel tout le monde voulait adhérer.
Pourquoi? Parce que vous étiez intelligent?
J'ai toujours été effectivement le premier de la classe, mais j'étais plutôt...
Rassembleur.
Oui. Et sur l'aspect parascolaire, promoscolaire, j'étais plutôt fort. Alors avec les amis, tout le monde voulait être dans notre groupe, car c'est là que se trouvait l'esprit fun, l'esprit du divertissement, sans oublier d'avoir des bonnes notes à l'école.
Joseph Bangakia, vous avez fait quel genre d'études aux humanités?
Parce que je vous ai dit que j'ai beaucoup voyagé, j'ai accompagné mon père qui était autorité académique à travers toute la province orientale. J'ai fait mon cycle d'orientation à Kisangani, à l'Institut Maélé, qui est le meilleur de la ville. Et j'ai eu mon diplôme d'État à l'Institut pédagogique de Bounia, à l'IDAP, à l'Institut d'application de cet institut supérieur où mon père était directeur général, en option biologie-chimie. Donc, ma mère qui est du Bazouélé, mes études de cycle d'orientation dans la Tchopo, mon diplôme d'État dans l'Ituri et mon père du Haut-Touélé fait que je suis un vrai produit de l'ex-province orientale.
Vous faites la biologie-chimie aux humanités à l'université. Vous vous orientez dans quoi?
À l'université, j'aurais dû faire de la médecine, mais j'ai plutôt voulu partir à l'étranger. Ce n'était pas facile, il fallait se battre. Et là, nous sommes dans les années 90, où le pays est blacklisté. C'était des périodes difficiles. Et pratiquement, la rébellion grandit.
Vous vouliez aller à l'étranger parce que c'était la mode à cette époque-là. Tous les jeunes voulaient aller à l'étranger.
Oui, je crois bien. Alors, j'ai bourlingué. J'ai fait le tour de ma nouvelle province, le Haut-Touélé. Dans quatre territoires, j'ai essayé, en cassant le caillou, à trouver ma voie pour m'expatrier. J'ai passé du temps au territoire de Wacha, au territoire de Faradje, au territoire de Dungu. Cette expérience aujourd'hui, elle est importante parce que il y a des horizons qui s'ouvrent, il y a des échéances pour le Haut-Touélé et avoir vécu dans plusieurs territoires m'a permis de me fondre dans toutes ces communautés, d'avoir un regard global. On en parlera plus tard. Mais une fois que, voyons le temps passer, j'ai regagné Kinshasa, où j'ai fait des études de fiscalité. Et c'est lorsque j'ai terminé que j'ai pu avoir le chemin pour m'expatrier. Et je suis parti aux États-Unis, dans la ville de Philadelphie, où à l'Institut Joseph Phelps, j'ai fait des études d'administration publique.
Vous avez un diplôme en administration publique?
Oui, aussi.
Après l'obtention de ce diplôme, vous êtes revenu au pays ou bien vous êtes resté un peu aux États-Unis?
Non, nous étions très soucieux de ce qui se passait au pays. La réunification était en cours, mais il y avait des résistances. Alors, avec des amis, nous avions été approchés par des proches de Mboussa Nyamusi, que nous suivions de loin, qui voulaient à tout prix, qui se battaient pour réunifier les territoires rebelles avec Kinshasa. Et donc nous nous sommes dit que s'il y a un endroit où nous devons aller, c'est chez l'homme qui souhaite aider le président Joseph Kabila à réunifier le pays. Et là, nous sommes descendus à Beni. C'était en début 2002, juste pendant la période de Sainte-Cité. Nous sommes descendus à Beni et nous avons aidé Mboussa Nyamusi dans son combat pour la réunification du pays. Il s'est beaucoup investi, là je le lui reconnais vraiment. Il a rencontré plusieurs fois le président de la République, il a été le premier à accueillir une délégation gouvernementale. Et à l'issue de la signature de l'accord global et inclusif, nous l'avons accompagné ici à Kinshasa.
Et c'est comme ça que vous vous êtes lancé dans la politique?
Oui, c'est comme ça, nous étions séduits par cette idée de participer à la réunification du pays. On était jeunes à l'époque, 26 ans, on se disait... C'est maintenant qu'il faut aller là où on a besoin de nous. Et en regardant...
Vous étiez convaincu de ce que vous faisiez?
Nous savions que le pays était à deux doigts d'être balkanisé. De Kinshasa, du pays, les gens sourient parfois lorsqu'on en parle, mais de l'extérieur, c'était presque évident. Et donc, il fallait tout faire pour éviter l'éclatement du pays. Il fallait être avec les forces qui voulaient lutter contre l'éclatement de notre pays.
Alors, vous revenez au pays, vous vous rendez à Beni, où vous adhérez au RCD, KML.
De Mboussa Nyamusi, exactement, qui m'a nommé immédiatement secrétaire national en charge de la jeunesse.
avoir cette idée d'aller au RCD, est-ce que vous aviez pensé une fois à devenir homme politique dans ce pays?
Il faut dire que, comme je vous l'ai dit, j'ai souvent été chef de promo, major, capitaine de la classe. Dans les groupes d'amis, les clubs que nous créions, j'étais toujours le président. Donc oui, j'avais ce leadership en moi depuis longtemps. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais employé des moyens violents pour partager mes idées ou régler des problèmes. Donc le débat a plutôt été ma méthode de faire, et le lieu par excellence du débat, c'est la politique.
C'est grâce au RCD KML que vous êtes élu vice-gouverneur de la province, de l'ex-province orientale.
Oui, avant cela, j'ai travaillé dans le cabinet du ministre de l'enseignement supérieur, où le RCD KML occupait le poste de vice-ministre, avec des amis dont certains sont au gouvernement, et je vois que tout le monde a eu un très bon parcours. Et je n'ai pas fait longtemps là-bas, j'ai été coopté dans l'Assemblée nationale de transition, présidée à l'époque par l'honorable Olivier Kamitat. J'étais le plus jeune député de la transition, et c'est là que j'ai été chargé par le RCD KML d'organiser les élections qui se pointaient. Et à l'issue des élections, le RCD KML a eu 13 députés nationaux et nous avons eu 11 députés provinciaux en province orientale. Et c'est en reconnaissance de ce travail que j'ai été proposé pour occuper le poste de vice-gouverneur, car le RCD KML était la deuxième force politique de la province orientale après le PPRD.
Mais pourquoi pas après vous avez quitté ce parti politique, Joseph Bangaka?
Je vous ai dit que je suis revenu au pays à travers Mboussa parce que on voulait se battre contre les vrais risques de balkanisation et soutenir les vrais efforts que Mboussa Nyamusi faisait. Et cela a réussi. Lorsque je suis devenu vice-gouverneur, pour moi la logique était simple. Nous avions fait campagne sous le label de la majorité présidentielle en soutenant Joseph Kabila. Et donc pendant le mandat, on devait être cohérent avec nos engagements pris devant les électeurs. Mais il s'est fait, c'est vrai que le RCD KML a estimé avoir beaucoup souffert d'une mauvaise rétribution politique. Et cela a créé de la frustration au sein des responsables du RCD KML.
C'était vrai ou c'était faux?
Bon, c'est difficile de dire oui ou non, mais ce que je peux dire, c'est que la frustration, les meilleurs moyens de la résoudre, ce n'est pas nécessairement de tout casser. Hein, ce n'est pas parce qu'on est tout à fait d'accord qu'on reste ensemble, mais c'est parfois parce que on a des objectifs communs qui sont devant nous. C'est pour ces objectifs, pour cet intérêt supérieur qu'on reste ensemble. Et c'était mon entendement, mais je voyais très bien que les responsables du RCD KML étaient davantage frustrés. J'ai essayé d'alerter sur la nécessité de rester cohérent avec notre démarche. Je crois que ça n'a pas plu. Au même moment, j'étais l'adjoint d'un gouverneur qui avait le double de mon âge. J'étais, je crois, trop énergique pour le goût de certains.
Vous vous affichiez trop.
Disons que j'étais très dynamique. Et là, nous faisions la première expérience de ce genre de gouvernance où les gouverneurs étaient élus avec un colistier vice-gouverneur, issu de partis politiques différents, bien qu'ils soient du même regroupement politique. Vous vous souvenez qu'au début de l'élection de ces gouverneurs, il y a eu beaucoup de problèmes dans toutes les provinces, pratiquement. Souvent, les gens pensaient que les adjoints voulaient prendre la place des titulaires. Alors, je crois que je n'ai peut-être pas su rassurer suffisamment. J'étais peut-être trop jeune pour cela. Et donc, j'ai été perçu comme un rival. Et du même côté, sur le parti, j'étais perçu comme quelqu'un qui était
Vous
sur une autre ligne.
Vous avez déjà d'autres ambitions en tête.
Pas ambition. Moi, je suis un homme constant. J'aime être loyal et constant, mais je veux d'abord être loyal à mes convictions et à mes engagements. C'est comme ça que je me suis dit, au lieu de faire un bras de fer politique, J'aurais pu le faire. J'étais encore jeune. Je préfère me déplacer pour prendre de la hauteur. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai remis ma démission. On me l'a reproché. On m'a dit que j'aurais dû demander l'avis de la haute hiérarchie. Je reconnais que j'aurais dû le faire. Mais je ne voulais pas, dans une si jeune carrière politique, j'ai été élu vice-gouverneur à 31 ans, je ne voulais pas laisser l'image d'un jeune conflictuel qui a des problèmes avec des aînés, qui étale les problèmes sur la place publique, dans les cours des tribunaux ou dans la presse.
Et c'est cette raison qui vous a poussé à démissionner?
Oui, j'ai démissionné. La mort dans l'âme, c'est vrai parce que...
Mais on vous a accusé quand même de détournement, des fonds.
Non, pas du tout.
Si, il y avait une motion contre vous,
non,
M. Barakia.
Non, il n'y avait pas de motion. Il y avait une question orale qui m'était adressée. J'étais vice-gouverneur sur une question qui relevait de la compétence du gouverneur de province, bien entendu, parce qu'aucun vice-gouverneur n'a la gestion, mais c'était une manœuvre politique. La manœuvre politique, c'était comment on fait pour...
Vous saviez qu'il y avait une motion de défiance que vous attendiez, ou vous êtes précipité, vous avez démissionné pour échapper à la motion?
J'aurais pu, parce que j'avais le bon droit avec moi, j'aurais pu. La justice existe dans ce pays. Il y a d'autres gouverneurs, vice-gouverneurs.
Peut-être parce que vous n'avez pas assez d'arguments.
Non, pas du tout. Parce que quelques temps après, la lumière a été faite. Et d'ailleurs, est-ce qu'on avait besoin de lumière? Personne n'était dupe. C'était une manœuvre...
C'était une histoire montée, cette affaire de détournement.
C'était une manœuvre politicienne, hein, pour se débarrasser d'une personne qu'on considérait à tort comme un rival. C'est pour cela, fort de cette assurance, je suis immédiatement reparti dans le débat public. On ne fait pas de débat public quand on traîne des casseroles. Depuis lors, je suis toujours sur le débat public. J'appelle les jeunes à prendre les responsabilités. J'appelle au respect de valeurs parce que j'estime vraiment être un modèle. Je ne me reproche rien du tout. Et la seule manière d'établir des faits, c'est une condamnation judiciaire. Lorsqu'il n'y a pas de condamnation judiciaire, la règle doit être la présomption d'innocence. Bien sûr que vous respectez dans cette interview aussi.
Alors, Joseph Barakia, vous démissionnez de vice-gouvernorat de la province, de l'ex-province orientale. Vous quittez le RCD-KML. Quelques temps après, vous créez votre parti politique avec l'ancien gouverneur de la province de l'Équateur, de l'ex-province de l'Équateur, Jean-Claude Baïndé. Vous créez l'ADH.
Jean-Claude Baïndé et moi sommes amis depuis que nous étions élus vice-gouverneurs. Dans les réunions, nous étions tout le temps côte à côte et on se parlait beaucoup. Quelques temps après que son gouverneur ait quitté sa fonction, il est devenu gouverneur de la province de l'Équateur. Il avait déjà créé son parti politique sous les couleurs duquel il s'est présenté aux élections provinciales. Mais il avait juste changé de nom pour devenir ADH. Lorsque j'ai quitté mes fonctions de vice-gouverneur et par conséquent j'ai quitté le parti, le RCD-KML, parce que pour la ligne politique, les lignes politiques divergentes telles que je voulais expliquer, j'ai reçu des sollicitations de plusieurs personnes et de plusieurs partis, même du plus grand parti. Mais comme j'aime les défis, j'ai voulu relever plutôt celui que m'a proposé mon ami, à l'époque gouverneur de l'Équateur, un jeune parti qui n'est pas connu, essayer de l'asseoir au niveau national. Et c'est comme ça, puisqu'il était en indisponibilité comme gouverneur, il m'a confié la présidence et l'ADH, qui n'était pas un parti connu, on s'est battu pour qu'il soit connu et reconnu, et c'est le cas aujourd'hui.
L'ADH reconnu, il est représenté dans toutes les provinces?
Il est au bureau politique de la majorité présidentielle, il a participé au premier gouvernement du Premier ministre Matata, il a des députés nationaux. C'est une chose que peu de partis ont.
Combien de députés?
3 députés nationaux, exactement.
Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus avec Baïndé, vous ne faites plus partie de l'ADH.
Effectivement.
Vous allez me parler encore de constance?
Oui, je suis constant à mes idées et je reste ami sur tout mon parcours. C'est pour cela que, contrairement à d'autres, vous n'entendez jamais, même lorsque j'ai démissionné, rien n'était sur la place publique. Même lorsque j'ai quitté le RCD-KML, c'était dans l'élégance, la courtoisie la plus grande, ce qui est le cas aussi de l'ADH, que j'ai quitté après des bons et loyaux services, après 5 ans de travail, aujourd'hui le parti est connu, pour une raison qui est toute simple, c'est que avec le démembrement qui est en cours, j'ai voulu me consacrer pour ma future province du Haut-Oulé. Il y a beaucoup de défis à relever. J'ai voulu être disponible. C'est une des raisons, entre autres, pour lesquelles j'ai quitté l'Alliance démocrate humaniste.
Mais en restant dans ce parti, qu'est-ce qui allait vous empêcher de vous concentrer aussi sur les défis que vous avez à relever pour votre province?
Bien, premièrement, les députés provinciaux et les notables de chez nous souhaitent une personnalité de la majorité. Je suis de la majorité.
L'ADH est de la majorité aussi.
Oui, mais qui soit transpartisane.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire en qui tous les partis se retrouvent.
Parce c'est que pas le cas avec l'ADH?
Non, j'ai dit que les personnalités du Haut-Oulé et les notables du Haut-Oulé, puisque aucun parti n'a la majorité et que nous évoluons sur une démarche du consensus, souhaite avoir comme premier gouverneur une personnalité en qui tout le monde se retrouve et qui est transpartisan. Transpartisane pour le cas, comme on parle de personnalité. Et donc, à l'issue du gouvernement de cohésion nationale, l'ADH avant occupé les fonctions, avait un représentant qui était aux fonctions de vice-ministre de la coopération. On s'est bien compris que l'essentiel de la base militante de l'ADH était dans la province de l'Équateur et que les défis que je voulais relever n'étaient pas compatibles avec l'exiguïté de la base. Et donc, pour relever de plus grands défis, il faut savoir prendre de la hauteur. Ce que j'ai dit et ce que je fais. Et pour l'élection des députés provinciaux, je suis candidat indépendant, mais de la majorité présidentielle.
Mais comment il a pris ça, votre ami Jean-Claude Baïndé?
Nous nous sommes bien compris, c'est une décision bien réfléchie. Ce qui compte, c'est que là où les populations nous attendent, attendent des personnalités qui sont capables de rassurer, de rassembler, nous n'avons pas le droit de ne pas être présents. C'était une obligation pour moi d'être présent.
Est-ce que vous pensez qu'avec le fait que chaque fois vous changez de parti politique, ça va rassurer?
Vous posez un vrai problème, c'est que la notion même des partis politiques en RDC doit être réformée. En vérité, en RDC, les partis sont créés pour une personne et sur une base d'une tribu ou du coin d'une province. Et ça, pour nous qui avons un idéal républicain, c'est extrêmement compliqué. Je croyais fermement que la majorité présidentielle aurait pu devenir un parti politique et j'espérais qu'avec l'élection d'un porte-parole de l'opposition, l'opposition aurait pu se structurer pour parler d'une voix. On aurait deux grands ensembles, la majorité et l'opposition, le parti du pouvoir, le parti du président et le parti qui se bat pour l'alternance, comme ça se passe dans plusieurs pays, même tout proche de nous. Ça permet d'avoir un débat clair, un dialogue constant et apaisé. Mais hélas, ce n'est pas sur cela que nous sommes. Donc, tant que nous n'aurons pas ce genre de parti, soit nous serons condamnés à être dans les partis qui sont présents dans nos coins de province ou dont les leaders sont de notre tribu, et ça je ne veux pas de cela, soit il faut se battre pour des grands ensembles, et je préfère plutôt m'inscrire pour que nous ayons un grand parti présidentiel.
À vous entendre parler, Joseph Bangakia, j'ai comme l'impression que vous finirez dans le PPRD.
Personnellement, je crois que le PPRD, c'est le parti présidentiel, il a vocation à devenir le, avec grand L, parti présidentiel. Est-ce que c'est le PPRD seul ou c'est la MP qui doit se muer en ce parti présidentiel? Mais pour moi, ça ne fait aucun doute. C'est le destin vers lequel nous devons arriver. J'ai de l'amitié pour les animateurs du PPRD, dont la plupart sont les animateurs principaux de la République. Je les ai souvent soutenus. Il n'y a pas de...
Vous les soutenez pour qu'ils vous trouvent aussi une place?
C'est légitime parce que, vous voyez, j'ai occupé des hautes fonctions dès le bas âge. Je dois mettre...
40 ans aujourd'hui.
Oui, je dois mettre cette expérience au service de mon pays de manière pratique. Je ne peux pas... puisque j'ai de l'expérience et de l'énergie, car la jeunesse confère de l'énergie.
C'est pourquoi on vous appelle, nouvelle énergie.
Oui, c'est une... effectivement. Donc, il faut que je sois en situation d'agir. C'est un vrai gâchis que je reste dans mon coin ou que je quitte le pays. C'est un vrai gâchis. Donc, oui, je crois que quand on a le parcours qui est le mien, la formation qui est la mienne, la capacité de parler autant de langues que la mienne, le fait d'avoir voyagé dans autant de provinces, de territoires, de pays, et d'avoir le parcours politique qui est le mien, j'ai été au bureau politique de la majorité, j'ai présidé un parti politique, je suis un débatteur connu. Oui, je crois que ma destinée est d'être aux affaires et de soutenir par les actes la politique du président de la République.
Alors on va souffler un peu, Joseph Bangakia, comment vous passez vos moments de détente?
Je suis un grand sportif, je fais beaucoup de gymnastique et je joue au tennis qui est mon sport favori bien avant le football. Mais je lis beaucoup. Je sors très peu. Donc à la maison c'est la quiétude parce que je suis tout le temps là. On n'a pas à me chercher à gauche et à droite. Je suis quelqu'un de
plutôt... On vous trouve à la maison.
Oui, je sors très peu, je lis beaucoup et j'exploite énormément Internet. Je fais beaucoup de sport et voilà.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Je n'aime pas les gens qui font des coups bas. Et souvent, je m'interroge sur mon avenir en politique, sur ma longévité en politique. Je n'aime vraiment pas les coups bas et ceux qui les font.
C'est quoi votre plat préféré?
Bon, je dirais le poisson, oui, parce que je suis quelqu'un qui fait très attention à ce qu'il mange. Je suis un homme de discipline, donc c'est le poisson. Avec les bananes plantains bien dures, comme parce que moi je suis Mungwetu du Haut-Touolé, chez nous on mange des choses très dures, nous sommes des hommes, des grands guerriers, donc c'est plutôt cela.
Joseph Bangakia Ongaz.
Ongaz.
Ongaz. Oui. Votre nom a une signification particulière?
Oui, bien entendu. Ongaz, c'est le nom de mon grand-père qui était un chef coutumier, un grand chef coutumier chez moi, qui a été même déporté de sa chefferie vers un autre district à l'époque, province aujourd'hui, parce qu'il résistait aux colonisateurs belges. Ça veut dire l'homme dont on ne sait pas d'où il vient. Et mon nom de famille, ça veut dire c'est l'homme sur lequel on s'appuie. Lorsqu'on s'appuie, c'est bien. Lorsqu'on le pétine, on se blesse.
Et vous arrivez d'écouter de la musique, Joseph Bangakia?
Oui, bien entendu. Je me lève même sous la musique.
Quel genre de musique vous aimez écouter?
Il faut dire que mon passage aux États-Unis a fait que j'aime bien plutôt la musique américaine, le hip-hop, le R&B, et mon passage en France, les variétés françaises. Mais
Qu'est-ce qui vous fait plaisir en ce moment?
Alors là, comme je suis un patriote, je vais parler d'une chanson congolaise. Mais bon, j'ai tellement d'amis dans le spectre musical congolais qu'il ne faut, pas que j'aille me faire des ennemis en choisissant l'un contre l'autre. Mais la chanson que j'écoute le plus, et c'est celle qui est dans la sonnerie identifiant la personne qui est dans mon cœur, c'est une chanson de Boyz II Men, Losing Sleep.
Alors, pour vous faire plaisir, on va écouter cette chanson de Boyz II Men.
C'est une nouveauté, vous l'avez.
Ne vous en faites pas. Nous sommes à la page, à Radio Kofi. On va écouter cette chanson pour faire plaisir à la personne qui est dans votre cœur, Joseph Bangakia, mais également à toutes les personnes qui aiment la musique de Boyz II Men. Et on se retrouve juste après pour parler actualité avec le découpage territorial, avec les démembrements aujourd'hui des plusieurs provinces, en nouvelles provinces. On va demander à Hippolyte Kapanga de nous balancer la chanson de Boyz II Men et puis on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Oh, I leave the lights on. Turn the sound up on my TV. Trust my words, girl, you'll never get the best of me. Cause you decided we would be divided. You made my bed, but I don't have to sleep in it. Tossing and turning in my bed, trying to get you out of my head.
De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
C'est moi pour découvrir aujourd'hui Joseph Bangakia, il est homme politique congolais et vice-gouverneur honoraire. Joseph Bangakia, l'actualité, comme vous le savez, c'est les découpages territoriales, la province orientale, province dans laquelle vous avez été vice-gouverneur, a été démembrée en 4 nouvelles provinces. Certaines personnes estiment qu'on est allé dans la précipitation dans cette affaire des découpages territoriaux. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vraiment, je dois reconnaître que la détermination du président de la République à mener cette réforme m'a surpris et m'a ravi. Parce qu'une fois, lorsque j'étais au bureau politique de la majorité présidentielle, le président de la République nous a consultés sur la mise en œuvre de cette réforme. Je me souviens que la plupart des cardinaux de la majorité étaient réservés. Et j'ai pris la parole pour dire au chef de l'État que cette réforme était attendue par les populations, elle était constitutionnelle, elle était opportune et qu'elle devait être la sienne.
C'est une réforme qui devait commencer depuis 2006. Pourquoi avoir attendu 2015, la veille des élections, pour procéder à ce découpage?
On devait le faire depuis, disons, 3 ans après l'installation du Sénat, au terme de l'article qui a été revisité de la Constitution à cet effet. Donc ça devrait se faire en 2009, on ne l'a pas fait, on s'est rendu compte qu'il fallait du temps pour évacuer certains problèmes. Ce que je regrette, c'est qu'effectivement le temps n'a pas été mis à profit pour évacuer les problèmes. Et sur ce plan, les gouvernements provinciaux, les assemblées provinciales, les institutions nationales, mais aussi la communauté congolaise ne s'est pas suffisamment mobilisée. Et donc le remède de cheval qui est administré actuellement, je crois qu'il tranche avec les tergiversations qui ont entouré cette réforme, car les gens, on le voyait bien, défendaient plutôt des positions acquises. Je crois que c'est la volonté de faire cette réforme, quand personne ne l'a préparée, qui va faire que la réforme sera une réussite, parce que nous serons devant le fait accompli et on devra s'adapter.
Et vous pensez que ça sera vraiment une réussite?
Déjà, le pilotage, il est bien fait.
On déplore le fait qu'il n'y a pas d'infrastructure dans certaines nouvelles provinces. Il n'y a pas de budget de fonctionnement. Comment tout cela va se passer?
Il y aura un budget. Parce que les provinces, les grandes provinces, les anciennes, ont disparu. Le budget qui leur était alloué n'a pas disparu. Il va être réparti aux nouvelles provinces. Donc, il y a un budget. Et puis, le gouvernement prévoit des fonds supplémentaires pour soutenir ces nouvelles provinces. Donc, il y aura certains moyens qui seront toujours insuffisants car les besoins sont toujours plus grands. Mais maintenant, le problème, ce n'est pas l'infrastructure. Ce pays, il n'avait pas de route, il n'avait pas de barrage. Il y a des gens qui les ont construits. C'est nous qui les avons construits sous la chicotte des Belges. Ne sommes-nous pas capables, sans la chicotte, lorsque nous sommes aux commandes, nous-mêmes, de construire ces infrastructures? Et puis, depuis que les provinces sont autonomes, quelle province qui savait qu'elle devrait être découpée à préparer les infrastructures pour les nouvelles provinces? Aucun gouverneur.
Justement parce que le gouverneur s'est plaigné du fait qu'on leur rétrocédait pas leurs 40%.
Non, pas du tout. Les gouverneurs faisaient certaines choses, on peut dire peu ou plus. Mais on voyait très bien qu'on construisait plutôt des écoles, on faisait plutôt ceci, cela. Mais personne ne préparait ces provinces qui étaient constitutionnelles. Ils n'étaient pas dans cet état d'esprit-là. C'est ça la vérité. Et maintenant, sur le terrain, le début sera difficile, c'est vrai, mais on ne part pas de rien parce que la plupart des nouvelles provinces sont des anciens districts qui ont été supprimés. Les bureaux des districts existent. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, ici, avait commencé à fonctionner. Ce n'était pas dans une infrastructure de la province. Donc le problème des infrastructures est un faux problème. Les hommes vont faire réussir cette réforme et c'est là où c'est important que le choix des hommes soit pertinent. Les plateformes qui vont choisir les candidats, les personnalités qui vont se présenter comme candidats, les députés qui vont élire les gouverneurs, doivent faire le choix d'hommes et de femmes compétents, rassembleurs, travailleurs et qui acceptent de relever les défis dans l'intérêt général.
Et vous pensez que ce découpage va aider les nouvelles provinces à se développer?
Bien sûr, je prends le cas du Haut-Touélé. J'étais vice-gouverneur de la province orientale. Je voyais les moyens dont nous disposions. On pouvait faire des choses. J'étais impuissant. Être adjoint, c'est très difficile. J'étais impuissant. Et parfois, je rageais dans mon cœur. Il y avait des choses qui pouvaient être faites. Mais jusqu'à présent, le Haut-Touélé, depuis que nous sommes dans ce régime où les gouverneurs sont élus, on peut faire les bilans. Le bilan, il est extrêmement... Il n'est même pas maigre. Il est inexistant. Le format de la province orientale n'a bénéficié en rien au Haut-Touélé. Il y avait des petits efforts qui se faisaient à Kisangani, des petits efforts en Ituri. Rien du tout dans le Haut-Touélé ne s'est fait. Mais maintenant que nous aurons un statut de province, la rétrocession, elle descendra à Iziro. Les recettes à caractère national sur lesquelles elles sont calculées, qui proviennent du Haut-Touélé, qui est actuellement la plus grande contributrice grâce à la présence d'Equibel Goldmine, permet au gouverneur de développer une vraie politique de développement pour le Haut-Touélé, au lieu de ce qui se faisait de Kisangani, où le Haut-Touélé vraiment est sorti le parent pauvre de ces dernières années de gestion de la province orientale.
Alors, vous les dites parce que vous êtes, vous faites partie aujourd'hui de cette nouvelle province du Haut-Uele.
Je le dis parce que j'ai été vice-gouverneur.
Toutes les critiques que vous faites, vous disent que le Haut-Uele a été oublié. On a fait un peu d'efforts pour Kisangani, Turi, sauf pour le Haut-Uele et le Bas-Uele. Qu'est-ce qu'on dirait?
Les sortants de la province orientale ont fait certains efforts pour le Bas-Uele. Mais pour le Haut-Uele, je vous dis que vraiment, les efforts n'ont pas du tout été au rendez-vous. Et je le regrette
mais
parce
comment
que...
comment vous expliquez cela?
Oui, bon, les décideurs ont leurs priorités. Lorsque j'étais vice-gouverneur, le dossier sur lequel vous parliez récemment, c'était un dossier pour désenclaver le Haut-Uele. J'avais demandé que l'on acquière du matériel pour désenclaver le Haut-Uele. Malheureusement, la manière de l'acquisition de ce matériel et de son acheminement m'avait échappé. Et la mise en œuvre aussi m'avait échappé. C'est ainsi que on a voulu me faire porter la responsabilité de cet échec. C'était un échec, mais qui partait d'une bonne idée. Et donc, on doit continuer sur cette bonne idée. Je l'ai dit à tous ceux qui ont dirigé la province juste après, mais la province était trop vaste. Je peux peut-être comprendre cela ainsi. Donc, cette réforme est bienvenue. Nous revenons à des dimensions plus acceptables. La province orientale était grande comme la France. Le Haut-Uele, ça fait le quart de la France, ça fait une centaine de milliers de kilomètres carrés. Ça permet au gouverneur d'avoir une vraie emprise et d'avoir les moyens de répondre aux défis qui sont devant lui.
La réalisation, M. Niard, qu'on n'a plus le temps, Joseph Bangakia, peut-être un dernier mot à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment. Dans votre nouvelle province, qui est le Haut-Uele, ils sont nombreux à nous suivre en ce moment, ils captent Radio Kapi, 5 sur 5, un message particulier à leur dire.
Je les salue parce qu'ils savent que je suis en contact permanent avec eux. Régulièrement, sur leurs ondes ou en y allant, je leur explique les enjeux qui viennent. Je leur parle beaucoup de la problématique de l'actuelle province qui est déjà là devant nous. Ils peuvent nous aider à faire le bon choix. Ils peuvent et ils doivent nous aider à faire le bon choix pour que nous ayons un gouverneur qui va nous rassembler, qui va faire fonctionner des institutions de manière efficace et dans la collaboration, qui va rassurer les communautés, être le garant de la justice entre communautés, entre territoires, et qui va garantir les intérêts aussi des compatriotes qui ont choisi le Haut-Uele comme leur province. C'est important qu'ils s'activent pour faire pencher le choix vers une personnalité capable de travailler réellement pour le développement du Haut-Uele.
Merci beaucoup, Joseph Bangakia. C'était un plaisir de m'entretenir avec vous dans cette émission. Je vous souhaite un très bon dimanche. Bonne chance pour la suite. Merci, Hippolyte Kapanga, qui était à la prise de son micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.